Chapitre 20. Chez Simone et Tom, le ton était plus à la morosité. Malgré les demandes de Philomène, la mère de famille avait refusé d'installer les guirlandes de pin sous les fenêtres extérieures. Le temps de l'Avent, qui s'échelonnait sur 4 dimanches et avait pour but que les semaines précédant Noël soient une période d'attente patiente, avait été à peine mentionné. Comme tous les bons catholiques, Tom et Simone s'étaient privés de friandises, de desserts et de danses, ce qui, dans leur cas, avait été bien facile étant donné leur chagrin. Le 23 décembre, Philomène se leva le matin avec un air déterminé sur le visage. Elle s'approcha du gramophone familial, seul objet luxueux hérité à la mort de Marcelin, et sans demander la permission à ses parents, toujours dans leur chambre, elle y glissa un record avant de tourner la manivelle. Une chanson festive se fit entendre aussitôt dans toute la Maison Blanche. « Ah, c'est dans le temps de Noël, on se rassemble tous en famille. On sort du bon vin de Gadel, on en passe à nos amis. Quand ça arrive le jour de Noël, on se donne des petits présents. Aux enfants, un beau bas de Noël, et comme ça, tout le monde est content. » En moins de 2 minutes, Tom arriva dans le salon, suivi de près par Simone. Les deux adultes avaient les yeux plissés et le visage encore ensommeillé. Confus, ils réalisèrent bien vite ce qui se passait en voyant leur fille, assise sur le sofa de velours fleuri, ses petites jambes repliées sous elle. Levant son menton avec un air défiant, Philomène attendit les reproches, qui fusèrent aussitôt. « Veux-tu bien me dire ce qui te prend ?» s'exclama Tom, le regard fâché. « Enlève-moi ça tout de suite, Philo !» renchérit Simone, les bras croisés sur sa poitrine lourde. « Non !» Comme Simone s'avançait pour enlever le disque sur le gramophone, la fillette bondit sur le sol et se plaça devant l'appareil en position de défense. Si la situation n'avait pas été aussi affligeante, Tom aurait ri de voir la mère et l'enfant se faire face d'une telle façon. Depuis qu'elle était toute petite, Philomène tenait tête à ses parents, ce qui amusait les gens qui voyaient sur ses traits la même détermination qu'avait Simone enfant. Mais quand son épouse étira le bras pour retirer le record de la Bolduc et que Philomène l'en empêcha, le père décida de prendre les choses en main avant que la dispute n'éclate. Il s'adressa à la gamine sur un ton sec. « Là, ma fille, c'est pas acceptable. Tu vas écouter ta mère tout de suite. Enlève-moi ça. » « Ah, c'est dans le temps de Noël, les filles ont une belle façon. Elles s'arrangent pour être belles, pour attirer les garçons. Je vous dis que dans ce temps-là, les garçons... » La voix haut perchée continuait à vibrer dans la maison sans que les adultes arrivent à faire entendre raison à la petite fille au visage buté. Philomène protégeait le gramophone comme un trésor et quand enfin Tom réussit à soulever le bras qui glissait sur le disque, le crissement qui en résulta fit grincer des dents. Mais aucun des trois protagonistes n'en avait cure. Chacun prit dans sa colère. « Je vous aime plus, on dirait même pas que c'est Noël !» pleurnicha Philomène en s'affalant sur le divan pour se mettre à pleurer à chaudes larmes, le visage dans un coussin vert foncé. Incapable de la consoler, Simone ne fit que hausser les épaules d'un air résigné. Elle fixa son époux avant de murmurer « Je vais préparer le déjeuner. Ton père est parti marcher avec Béatrice et il devrait rentrer sous peu. Occupe-toi d'elle. » Son mari lui fit un signe là de la main et se dirigea vers le gros poêle à bois pour ajouter une bûche. Il voulait surtout éviter de regarder le visage déçu de sa fille. Encore une fois, les conséquences de la mort d'Éloi sur la vie de la famille se faisaient sentir. Tom soupira en soulevant le morceau de bois. Mais son geste resta en suspens lorsque Philomène releva sa tête en le fixant de ses yeux bleus remplis de colère. « Je veux aller vivre chez ma tante Maddy !» cria la petite fille frustrée que personne ne s'occupe de sa peine. « Chez elle, au moins, il va y avoir un sapin de Noël !» Sa mère et son père se figèrent aussitôt. La bûche tomba sur le sol alors que Tom s'avançait en vitesse vers le salon. Il levait la main devant sa fille lorsque la porte de côté s'ouvrit. « Eh, monsieur, je vous dis congèle ce matin !» grogna Horace qui s'avança dans le couloir. « J'aurais voulu rester un peu plus longtemps, mais Le père de Tom pointa Béatrice qu'il venait de déposer sur le sol, puis il arrêta de parler en constatant la scène qui se déroulait devant lui. Il n'avait jamais vu son fils lever la main sur un de ses enfants, mais le mouvement qu'il s'apprêtait à faire était sans équivoque. La peur se lisait même sur le visage de Philomène, et son grand-père enleva ses bottes sans quitter son fils des yeux. Quand il s'avança pour se placer entre Tom et sa petite-fille, le jeune homme avait la mâchoire crispée, de telle sorte qu'il ne parvint pas à répondre à son père. « Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime pas trop ce que je vois, mon gars. » Horace fixa sévèrement le père de l'enfant, dont la bouche ne formait plus qu'une fine ligne. Tom avait le cœur tellement chamboulé qu'il n'arrivait pas à articuler un seul mot. Il était honteux, fâché, peiné. Philomène, comprenant qu'elle était allée trop loin, sauta en bas du divan pour s'élancer dans les bras de son grand-père. La tension était si forte dans le salon et la cuisine que même Béatrice, empêtrée dans son grand manteau de laine bleue, arrêta de geindre pour fixer la scène. Malgré la culpabilité que faisait naître en lui le regard contrarié d'Horace, son fils répondit sèchement. « Il se passe que ta petite fille est assez sans cœur et a l'air d'avoir oublié que son frère Éloi est mort à cause de ma sœur, » continua Simone, alors que son époux n'arrivait plus à parler. Philomène se remit à pleurer à chaudes larmes et expliqua « Je le sais qu'on est triste parce qu'Éloi est mort, mais moi je veux avoir un Noël, je suis juste une petite fille, moi et... » La gamine sanglotait tellement en tentant de justifier son geste que même Simone sentit son cœur se briser en mille morceaux. Mordillant sa lèvre, elle essuya une larme et s'approcha de Philomène. Elle posa un genou au sol et, après quelques secondes sans rien dire, tendit les bras. La petite s'y précipita et entoura le cou de sa mère en murmurant « Je m'excuse, maman. Je m'excuse. Moi aussi, ma fille. » Tom essuya ses yeux en pensant aux jours pas si lointains, où les rires et les plaisanteries étaient monnaie courante dans leur petite maison. Se remettrait-il un jour de la disparition des lois? Il leva une main pour signifier à son père son regret, puis il passa une main dans les cheveux blonds de Philomène. « C'est correct, Philo. Vire-toi pas tout à l'envers comme ça. » Horace sentit une petite main tirer sur son pantalon et il baissa la tête sur Béatrice, que tout le monde avait oubliée. Le bébé avait presque réussi à détacher son manteau, mais il restait le dernier bouton, alors le vêtement traînait sur le sol derrière elle. « Yanto !» s'exclama la gamine de 16 mois, tapant dans ses mains avec fierté. En voyant sa sœur à moitié extirpée de son vêtement de laine, Philomène éclata de rire, ce qui permit enfin que l'atmosphère s'allège. Tom souleva le rond du poêle et y fourra la bûche qu'il avait ramassée au sol. Il inspira en priant le Seigneur de lui donner la force de passer à travers cette période difficile. Puis il lança à voix haute sans se retourner. « Si tu veux venir avec moi tantôt, Philo, on va aller chercher des branches de sapin pour que ta mère tresse des guirlandes pour mettre autour de ta porte de chambre. » Le sourire radieux qui apparut sur le visage rond de la fillette remplit le couple de culpabilité. Avec cette épreuve qui lui était tombée dessus au printemps, il en avait oublié ses deux autres enfants. Simone et Tom restèrent les yeux plongés les uns dans les autres pour trouver le courage d'offrir à Philomène un temps des fêtes qui ne serait pas seulement triste. Il avait été entendu que Jean-Julien accueillerait le jeune couple de Rimouski pour la semaine. Pendant tout le trajet jusqu'à Percé, Sylvestre resta étonnamment silencieux. Convaincu que les paysages grandioses en étaient la cause, Clémence essaya de se taire aussi pour le laisser savourer la vue sur la mer houleuse de ce mois de décembre. Le boulevard Perron longeait la côte et pour ceux qui ne s'étaient jamais aventurés aussi profondément dans la péninsule, c'était un spectacle magnifique. La jeune femme saisit donc la main de son amoureux et la serra contre elle jusqu'à la fin de leur périple de plusieurs heures. Ce n'est qu'à l'arrivée à Percé que Sylvestre laissa finalement paraître son inquiétude en demandant, au moment de descendre de l'autobus, « T'as quand même averti ta famille de ma venue, hein, Clémence? »« Ben, c'est sûr. Ça fait 3 fois que tu me le demandes. J'ai pas l'habitude d'inviter des gens sans prévenir. » rigola la jeune femme en fourrant ses boucles châtaines sous son chapeau. Elle lui saisit le bras pour le tirer vers la sortie, mais l'homme n'avança pas. Il précisa sa pensée. « T'as bien avisé ta famille que j'étais différent. »« Différent? Arrête donc avec ça, t'es pas plus différent qu'un autre. » Sylvestre secoua sa tête en se demandant s'il n'avait pas commis une erreur. L'homme avait bien remarqué les regards lorsqu'ils étaient montés dans l'autobus. Même si sa compagne avait semblé les ignorer, lui ne pouvait imaginer qu'elle était si naïve. Et dans les faits, Clémence avait beau se montrer sereine, elle avait la gorge nouée à l'idée de la réaction de son oncle. Il serait le premier juge de cette relation particulière, pensa la jeune femme en relevant la tête. Juste derrière eux s'impatientait un couple de personnes âgées qui les fixait d'un regard où se lisait la méfiance. Sylvestre eut presque envie de crier « Bouh !» pour les apeurer un peu plus. Mais en baissant ses yeux sur le joli visage ovale de son amoureuse, il ne voulut pas gâcher son moment. Car Clémence venait d'apercevoir la voiture de son oncle, qui les attendait en fumant sa pipe, assis bien au chaud sur la banquette avant. Elle sautilla sur place et courut vers l'avant du bus. « Mon oncle Jean-Julien, on arrive » cria-t-elle à tue-tête, même si la fenêtre de la voiture était à peine entrouverte. Clémence voulut descendre de l'autobus à toute vitesse, et n'eût été le geste de retenue de son amoureux, elle se serait retrouvée étalée de tout son long dans la neige. Elle lui fit un sourire éclatant et encore une fois la détermination de Sylvestre, qui se disait qu'il vaudrait peut-être mieux cesser de la fréquenter, fondit aussitôt. « Regarde Sylvestre, mon oncle nous attend, vite !»« Oui, oui !» Le couple se dirigea vers la grosse voiture noire stationnée devant l'auberge du Cap. Pressé de présenter son amoureux pour prouver à Sylvestre qu'elle avait dit vrai, Clémence cogna dans la vitre de la portière et son oncle l'abaissa aussitôt. « Coucou mon oncle, on est là !»« Allô ma grande, vite! Dépêchez-vous de rentrer, on gèle !» Jean-Julien tenta de voir le jeune homme qui se tenait derrière sa nièce, mais ce dernier était tourné vers la mer et il ne l'apercevait que de côté. Clémence fit un sourire qu'elle espérait confiant en se glissant sur la banquette de cuir à côté de son oncle. Ce dernier pencha la tête pour mieux apercevoir son compagnon. Clémence inspira profondément et lança avec force « Mon oncle Jean-Julien, je te présente mon ami Sylvestre Ballant. Sylvestre, voici Jean-Julien. Enchanté, monsieur !» dit le Rimousquois en tendant une main légèrement tremblante. L'oncle de Clémence étira le bras et s'apprêtait à saluer jovialement l'ami de Clémence, lorsque le regard vert clair percutant de Sylvestre le fit tressaillir jusqu'aux entrailles. Un vague souvenir, oublié depuis longtemps, remonta à la surface. Jean-Julien repoussa cette image et constata que le teint du jeune, plus foncé que la normale, faisait qu'on remarquait encore plus ses iris particuliers. Bien que peu habitué de rencontrer des gens de couleur, son savoir-vivre l'empêcha de montrer sa surprise. Il saisit donc la main de Sylvestre devant sa nièce soulagée, qui recula pour laisser les deux hommes se saluer à leur aise. « Appelez-moi Jean-Julien, » précisa le photographe. « On va quand même passer la semaine ensemble, » ajouta-t-il en délaissant la main de Sylvestre. Ce dernier se renfrogna légèrement. Il lui avait semblé deviner un léger mouvement de recul. Pouvait-il savoir que ce n'était pas sa couleur, mais bien son regard inhabituel qui avait ému l'oncle de Clémence? La femme, satisfaite que son amoureux ait passé le premier test, respira un peu mieux. Quand ils arrivèrent devant la maison du moustachu et que celui-ci sortit de la voiture pour se hâter d'aller ouvrir la maison, Sylvestre agrippa le bras de sa compagne. « Tu vois ce que je t'avais dit? Hein? Dis-moi pas que t'as pas remarqué que ton oncle était peu intéressé à me recevoir chez lui? » Clémence fronça les sourcils avec étonnement. Elle n'avait rien constaté de la sorte et voulut en faire part à Sylvestre, mais Jean-Julien, de son balcon, leur faisait de grands signes d'invitation. Elle souffla seulement « Tu te trompes ?»« Je l'espère en tout cas », songea-t-elle en se promettant de bien observer les interactions entre les deux hommes. Ce n'est qu'au début de l'après-midi du 24 décembre que Madeleine et Simone, l'une après l'autre, rencontrèrent le soupirant de leur sœur cadette. Sylvestre avait dormi sous les combles dans une petite pièce aménagée par Jean-Julien, qui lui servait généralement de débarras. Lorsque l'homme s'était réveillé après une bonne nuit de sommeil, il avait jeté un coup d'œil à travers la petite lucarne percée dans le toit. « Waouh !» avait-il murmuré. « Quelle vue majestueuse !» Au loin, le rocher percé prisonnier des glaces et l'île Bonaventure, couverte d'un tapis blanc, offraient rien de moins qu'un paysage à couper le souffle. Sylvestre n'avait jamais rien vu de tel, et il était resté longtemps à contempler ce panorama. Il s'était étiré le cou pour mieux voir le village un peu plus bas, dans la colline. Les volutes de fumée qui s'élançaient vers le ciel faisaient un balai gracieux, et l'homme avait soupiré en priant pour que tout se déroule bien. Il avait entendu les murmures de Clémence et de Jean-Julien vers 8 heures et était descendu les rejoindre. Malgré l'étrange sentiment qu'il avait éprouvé la veille, lorsque le photographe l'avait accueilli, la soirée s'était déroulée dans la bonne humeur et rien ne laissait présager que la suite serait différente. Sylvestre était donc un peu rassuré sur le déroulement de sa visite. Peut-être, en effet, qu'il anticipait des embûches qui ne se dresseraient pas sur son chemin. Anxieuse et excitée à l'idée de ce premier contact de son nouvel amoureux avec ses sœurs, Clémence observait son amie, qui prenait son manteau accroché derrière la porte. Elle voulait que tout soit parfait, les vêtements, la coiffure, l'attitude de celui-ci. Comme il sentait le regard de la femme sur lui, Sylvestre lui sourit tendrement. Après un salut au photographe, le couple sortit de la maison à flanc de montagne. « Avoue que c'est beau, lança la joie, hein ?» lui demanda joyeusement Clémence lorsqu'ils s'élancèrent dans le chemin dégagé par la charrue du ferblantier. « Oui, je comprends pas pourquoi t'es partie d'ici. Me semble que la vie doit être douce dans un tel environnement. » Clémence fit un rictus enfantin et se tourna pour faire face à son amie. Elle marcha à reculons en tentant de lui expliquer son choix. Comment lui faire comprendre que, depuis son enfance, elle souhaitait une vie différente de celle de ses sœurs? Leur mère lui répétait d'ailleurs souvent à quel point il était compliqué avec ses projets et ses questions sur le monde. Lorsqu'elle avait eu 16 ans, Marcelin et Carmel lui avaient même proposé de rencontrer un lointain cousin pour une éventuelle union. Ils avaient reçu une fin de non-recevoir. « Pas question que je marie un pêcheur », avait déclaré Clémence. Ses parents s'étaient fâchés en lui rappelant de ne jamais lever le nez sur les gens de son village. Elle avait donc fait semblant de se conformer à leur volonté et lorsqu'ils étaient décédés, Clémence avait su que sa vie était ailleurs. Elle essaya donc d'expliquer son choix à Sylvestre. « Tu sais, quand tu vois les mêmes gens depuis toujours, que t'entends les mêmes potins, les mêmes blagues, pour certaines personnes c'est rassurant, mais pour moi c'était comme, comment dire, lourd. Lourd, rigola Sylvestre, la tuque enfoncée sur le front. La couleur de ses yeux éclatait encore plus dans ce paysage blanc. Sans réfléchir, Clémence s'arrêta et posa sa main sur la joue rugueuse de l'homme, avant de regarder autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Elle se hissa ensuite sur la pointe des pieds pour l'embrasser furtivement. « Fais pas ça ici !» grogna son ami en reculant. Blessée par son repli, Clémence fourra ses mains dans les poches de son épais manteau trois quarts. Elle avait besoin d'agir naturellement pour faire baisser son niveau d'inquiétude. Le couple se remit en marche dans un silence tendu. Au bout d'une quinzaine de minutes, la jeune femme s'arrêta à mi-chemin du troisième rang devant chez Simone pour attendre Sylvestre, qui marchait quelques pas derrière. Devant l'air triste de sa compagne, il lui fit un sourire un peu embarrassé. « Je m'excuse, Clémence. C'est pour te protéger que j'agis ainsi. » La femme vint pour répondre quand la porte de côté de la Maison Blanche s'ouvrit et elle vit sa nièce Philomène sortir en courant. La petite s'arrêta net en voyant Clémence et Sylvestre avant de crier de joie. « Ma tante Clémence !» Elle s'élança en vitesse pour sauter dans les bras de la femme, qui s'était accroupie à sa hauteur. Restée derrière, Sylvestre sourit lorsque Clémence s'exclama « Wow, wow, ma fille, tu vas me faire tomber !»« Je suis trop contente, c'est un beau cadeau de Noël, viens voir maman, ça va lui faire trop plaisir hein !» Philomène allait continuer à parler quand elle remarqua l'homme, quelques pas derrière elle. Elle leva son bras et pointa sa grosse mitaine de laine sur Sylvestre. « C'est qui, lui ?»« Avance un peu, Sylvestre, que je te présente, mademoiselle Philomène. » Quand il arriva aux côtés de son amoureuse, la petite fille leva la tête et planta ses yeux clairs dans ceux de l'homme de plus de 6 pieds. Le toisant en silence, elle plissa le front sans dire un mot pendant quelques secondes. Ensuite, elle se tourna vers sa tante et lança « Pourquoi ton ami a le visage foncé comme ça ?» Empourprée devant l'impertinence de sa nièce qui confirmait ses craintes, Clémence répliqua sèchement « Voyons, Philo !» Mais devant cette franchise enfantine, Sylvestre, lui, sourit avec bonté. « Parce que ma maman est noire, » précisa-t-il en se disant que tant qu'à être stigmatisé, aussi bien l'être pour la vérité. « Noire ?» La confusion se lisait sur les traits de la fillette. Il faut dire qu'à Lens à la joie, la venue de gens d'une autre origine était rarissime. Mais comme Sylvestre allait élaborer sur son histoire familiale, la petite haussa les épaules et dit « Ah bon, vous venez voir maman ?» Clémence et Sylvestre échangèrent un regard surpris et soulagé. Si seulement tous les villageois réagissaient ainsi. Quand ils posèrent les pieds dans l'annexe servant aussi de tambour pour la saison froide, ils entendirent aussitôt Simone crier « Philo, arrête de rentrer, sortir, rentrer, tu gèles la maison! » La blondinette enleva son capuchon sur sa tête, puis elle détacha sa tuque nouée sous le menton et répondit sur le même ton « J'ai trouvé une surprise dehors! » Le trio attendit que la mère de famille réplique, mais ce fut plutôt sa silhouette qui se découpa sur le seuil de la cuisine d'été. Simone tenait Béatrice sur sa hanche et essayait d'attacher sa petite veste rose d'une main. « De quoi tu parles? »« Oh, bien, la belle visite! » Simone déposa aussitôt son bébé au sol pour s'avancer vers sa cadette. Son corps était plus enrobé que lors de la dernière visite de Clémence et celle-ci se demanda pendant un moment si sa sœur n'était pas de nouveau enceinte. Mais sachant la chose impossible, elle cacha son étonnement. Il y avait longtemps que la jumelle n'avait pas eu les hanches et la taille aussi bien enveloppées. Tant mieux, elle avait enfin retrouvé son appétit, songea Clémence. En la serrant longuement dans ses bras, la châtaine soupira de bien-être. « Allô, ma sœur, ça fait du bien revenir ici. » Simone lui fit un sourire franc avant de fixer Sylvestre avec stupeur. Elle n'eut pas le temps de réagir puisque Philomène se chargea à sa façon d'expliquer les choses. « C'est l'ami de ma tante qui a l'air d'un Indien, mais c'est parce que sa maman est noire. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais peut-être qu'elle est passée au feu. » Surpris par l'explication, les adultes éclatèrent de rire et la tension que Sylvestre ressentait au niveau de ses épaules se dissipa un peu. Même si elle n'osa pas questionner Clémence devant son amie, Simone se détourna rapidement en se demandant tout de même quelle lubie avait envahi sa cadette. Une chance que Marcelin était mort parce que sa réaction aurait été virulente. Refuser de fréquenter un bon pêcheur du coin pour s'acoquiner avec un étranger, leur père aurait été insulté. Après une heure à jaser avec Simone, qui apprécia le calme et l'attitude polie de Sylvestre, le couple se dirigea vers la maison de Madeleine et Freddy. Si la seconde jumelle ne posa aucune question, Freddy, lui, ne se gêna pas pour commenter dès que Sylvestre ressortit de chez eux vers le milieu de l'après-midi. « Peux-tu bien me dire ce que prête ta sœur d'inviter un homme de ce genre-là au village? On fait assez parler de nous autres de même. Je sais bien, » répliqua Madeleine en haussant les épaules. « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'étais toujours pas pour les mettre dehors, puis il est bien gentil quand même. Gentil, gentil, c'est pas ça le problème. Attends que le monde le voit à messe ce soir, on n'a pas fini d'en entendre parler. » Palmyre, qui n'avait pas commenté, leva sa main tavelée et grogna. « Il y a des drôles d'yeux pour un noir. Je pensais pas voir un homme de même chez nous avant de mourir, en tout cas. » Son commentaire coupa l'élan de Freddy, qui allait ajouter quelque chose. Madeleine et lui fixèrent la grand-mère qui hochait la tête pour donner plus de poids à ses paroles. L'homme répondit « C'est pas ses yeux que le monde va remarquer en premier, grand-mère, je vous le garantis.